Salut tout le monde, avant de vous laisser avec l'épisode du jour, je voulais vous parler d'Artae Immobilier. Artae Immobilier, c'est une société que j'ai fondée il y a quelques temps et qui produit aujourd'hui ce podcast. Alors si vous voulez vous lancer et investir dans l'immobilier, comme moi depuis de nombreuses années, c'est la bonne décision évidemment, je ne vous l'apprends pas, vous savez, vous connaissez mon appétence à l'investissement locatif, on en parle beaucoup sur ce podcast, mais peut-être que vous n'avez pas forcément de temps à y consacrer, peut-être que vous n'êtes pas sur place, peut-être que vous avez peur de faire des erreurs, peut-être que vous souhaitez simplement accélérer dans vos investissements et aller plus vite en déléguant. Ben, je pense qu'on est fait pour se rencontrer et échanger sur ce sujet-là, avec moi directement ou avec mon équipe. Et pour réaliser votre projet sereinement, Artae vous accompagne avec une offre clé en main, spécialement conçue pour les investisseurs. Artae Immobilier, c'est une agence spécifique pour les investisseurs, 100% dédiée à eux et à l'investissement locatif. De l'acquisition du bien jusqu'aux travaux, puis à l'ameublement, à la décoration, à la mise en location, vous êtes guidé, conseillé, accompagné de A à Z par notre équipe de pros que je recrute personnellement, et croyez-en mon exigence, je recrute que des gens compétents et composés surtout d'investisseurs aguerris ou, s'ils le sont un peu moins, que je forme moi-même aussi au métier de l'investissement immobilier. Optez pour les étapes dont vous avez besoin sans problème, bénéficiez de l'accompagnement qui vous correspond. On est aussi votre coach tout au long de ce projet, vous montez en compétence grâce à nous, c'est du clé en main, c'est de la délégation, mais ça vous permet aussi de monter en compétence. Vous pouvez nous confier la recherche du bien, vous pouvez nous confier uniquement les travaux, l'ameublement, la déco. C'est vraiment un accompagnement et un service sur mesure. Alors si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous rendre sur le site artae.imo, vous trouverez quelques informations à ce sujet. Sur le site également aussi investiratoulouse.com pour ceux qui voudraient investir en région toulousaine, mais on n'est pas basé qu'à Toulouse, donc on peut aussi vous accompagner ailleurs. Mais ça vous permettra de voir un petit peu la qualité aussi de réalisation qu'on peut produire pour votre compte. Et puis aussi à nous suivre évidemment sur Instagram, Artae Immobilier, très simple, ou sur LinkedIn, Artae Immobilier. On partage aussi pas mal de réalisations qu'on fait, en tout cas pour le compte de nos clients. Et puis n'hésitez pas à nous contacter, à contacter notre équipe pour échanger autour de votre projet directement par email à contact@artae.imo, tout simplement. Voilà, l'équipe se fera un plaisir d'échanger avec vous sur votre projet d'investissement et de vous accompagner tout au long de ce projet crucial pour se créer un patrimoine et s'enrichir. Et c'est ce qu'on essaie de faire tous ensemble en animant ce podcast ou en l'écoutant aussi chaque semaine. Voilà, merci encore d'être là. À très vite, je vous laisse avec l'épisode du jour. Ciao, ciao. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Je suis Julien Calamotte, investisseur passionné et auteur du livre à succès « S'enrichir grâce à l'immobilier ». J'avais envie de partager ma façon d'investir, forcément, mais également de découvrir avec vous de nouvelles façons de faire fructifier notre argent. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast pour y recevoir des invités qui nous partagent leur savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, nous revoilà sur un épisode de Money Tree cette semaine avec un invité pour nous parler de marchés financiers. On avait déjà traité les marchés financiers avec un épisode dernièrement sur avec Sébastien, le fondateur de YoMoney. On va traiter aujourd'hui et parler de d'épargne également évidemment sur les marchés financiers, mais plutôt en autonomie. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir Édouard Petit. Salut Édouard.
Bonjour, comment vas-tu? Ravi de participer à ce podcast et de rejoindre ta communauté. Merci beaucoup de l'invitation.
Ben, je t'en prie Édouard, merci beaucoup d'être là. Écoute, moi ça va aussi. J'espère que de ton côté tout va bien. Je suis vraiment content de t'avoir sur le podcast. Ça fait un bon moment que je suis tes aventures autour des marchés financiers, de l'épargne passive notamment via les ETF. Et c'est le sujet qu'on va traiter aujourd'hui ensemble. Donc tu es l'auteur de deux ouvrages, si je dis pas de bêtises.
Ouais, c'est ça.
Sur le sujet, voilà. Donc le premier s'appelle Épargnant 3.0, c'est ça?
Ouais.
Et le second s'appelle, attends, il faut que je m'aide un peu parce que je ne l'ai pas retenu par cœur, créer et piloter un portefeuille d'ETF.
Ouais, c'est ça.
Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui, je pense. Est-ce que tu peux, sans qu'on revienne trop sur justement la notion de marché financier de manière macro, etc., parce que c'est des choses qu'on a traitées déjà dans d'autres épisodes, est-ce que tu peux nous dire comment toi t'es venu justement à investir en bourse et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui t'as une stratégie dite passive que tu nous expliqueras tout à l'heure?
Oui, écoute, moi je suis un investisseur particulier, donc j'investis pour moi-même, pour développer mon patrimoine, et j'ai toujours été passionné d'investissement de bourse, En fait, bon, bah, j'ai commencé, je sais plus l'âge exactement que j'avais, mais je devais avoir 10-12 ans.
Ouais, ok.
Ouais. Donc voilà, et j'ai acheté mes premières actions à un guichet Crédit Lyonnais, puis de la Société Générale avec mes parents. Mais c'est moi qui avais choisi les actions. Voilà, j'essaie de retrouver, et j'ai pas réussi à retrouver l'historique de tout ça, hein, mais j'ai acheté du Canal à l'époque, des choses qui me parlaient en fait. J'achetais aussi, alors je devais quand même lire certaines choses, je me souviens plus très bien, mais j'avais quelques prémices sur la diversification, parce que j'ai acheté, je me souviens très bien pour le coup, du Zambia Copper, des mines de cuivre en Zambie, côté okay. La Bourse de Paris en l'occurrence, ça faisait partie des quelques actions qui étaient cotées à la Bourse de Paris. Voilà, et puis plus tard du Vivendi, voilà, des choses. Bon, j'investissais sans je sais pas trop comment, à l'instinct, mais j'aimais ça, et c'était à l'instinct. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que j'avais l'impression de participer à un projet d'entreprise quand je faisais ça. Voilà, c'était pour ça que je faisais bien sûr. J'aimais faire des profits, cela étant, bon, pour la petite histoire, je pense que comme je suivais les cours sur Minitel, ça coûtait plus cher à mes parents que les profits que je faisais de suivre les cours sur Minitel. Donc, mais je faisais ça parce que voilà, parce que l'entreprise me parlait, voilà. C'est pour ça. Et encore aujourd'hui, même si on investit j'investis en ETF, et il y a moins de relations directes avec les entreprises, on pourra en reparler. C'est quand même pour des raisons aussi sociétales que j'investis. Voilà.
Ok, tu peux nous en parler.
Bah, je pense que de fournir du capital aux entreprises, quelque chose d'extrêmement important pour qu'ils développent des projets. C'est ça. Pour moi, c'est vraiment les entreprises. C'est l'humain, c'est entreprendre. C'est la caractéristique de l'humain. L'entreprise, c'est la caractéristique de l'humain. Le progrès, moi, je fonctionne comme ça. Donc, pour moi, amener des capitaux aux entreprises pour qu'elles se développent, c'est ça qui crée des idées, du progrès, certes technologique, mais aussi sociétaux, que dire d'autre. Voilà. Alors, effectivement aussi, alors les gens qui connaissent bien les marchés financiers vont me dire, mais oui, mais si tu investis en bourse, la levée de capital, elle a déjà eu lieu, donc tu ne fournis plus de capital aux entreprises. Mais cela étant, donc c'est ce qu'on appelle, on rentre déjà dans un débat, j'ai pas fini d'être mon histoire, mais bon, on rentre déjà dans un petit peu en histoire. C'est vrai que c'est plutôt sur la mise sur le marché que les entreprises lèvent des capitaux pour créer des projets. Mais si derrière, on peut pas échanger les actions qu'on a levées, et ben en fait, le marché primaire, ce qu'on achète le marché primaire, ne pourrait pas exister. Donc de pouvoir échanger des actions derrière, c'est ça, en effet de bord, qui permet de lever des capitaux. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important à comprendre sur la bourse. C'est que c'est quand même ce qui permet de faire vivre les entreprises, qui crée, qui diminue le chômage. Voilà, moi, je suis dans cette lignée-là, sans vouloir faire de politique. Je pense qu'il y a un lien entre entreprise et développement sociétal. Donc j'ai fait ça historiquement, et après, j'ai continué à m'intéresser un petit peu toute ma vie sur les actions, sans investir correctement, parce qu'à l'époque, aujourd'hui j'ai 47 ans, à l'époque, quand j'ai commencé à investir, bon, là, on ne pouvait pas acheter un livre sur Internet, il n'y avait pas des podcasts très intéressants qui expliquent comment se faire. Les courtiers sur Internet, ça s'est développé, je pense, plutôt vers 93. Voilà, j'ai commencé à cette époque-là sur Internet. Bon, voilà, c'était beaucoup plus difficile d'investir correctement. Les premiers ETF, bon, étaient très très peu connus. Le premier ETF en Europe, c'est vers 2000-2002, quelque chose comme ça. Donc voilà, j'ai pas spécialement bien investi, mais je me suis toujours intéressé à ça. J'ai perdu de l'argent pendant la crise des dot-com. J'ai fait beaucoup d'investissements à cette époque-là, vers 98-2000. J'avais l'impression d'avoir perdu beaucoup d'argent, mais comme j'avais peu d'argent au départ, hein, c'était pas très grave, et j'avais appris pas mal de choses. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que bien qu'ayant fait une école de commerce, j'étais jamais tombé sur ce graphique qui explique que 90% des gestionnaires professionnels font moins bien que le marché. En fait. Et je suis tombé sur ce graphique, disons vers 2010 à peu près, et ça m'a vraiment interrogé en fait. Et de fil en aiguille, j'ai voulu vraiment comprendre ce sujet-là. Et c'est à partir de là où j'ai mieux investi, selon les préceptes que j'explique aujourd'hui, là, sur l'investissement passif, les ETF, etc. Et beaucoup de bonnes pratiques qui sont plus connues aujourd'hui, mais qui à l'époque étaient très peu connues, même pas enseignées en école de commerce, notamment, voilà. Bien qu'ayant fait de la finance, je me suis spécialisé là-dedans, j'ai voulu le faire pour moi, j'ai voulu comprendre. Et puis en 2014, je me suis dit, tiens, peut-être que je vais arrêter d'expliquer à mes collègues, etc., tout le temps, je vais écrire un petit livre. Et donc, j'ai écrit, juste parce que voilà, j'étais passionné par ça, et quand j'expliquais ça voilà, à tout le monde, etc., de ce qu'il fallait faire, les ETF, qu'il fallait absolument découvrir ça, que c'était très original, l'investissement passif, etc. Et je voyais aussi le portefeuille de collègues qui était proposé par des banques, et je tombais de ma chaise. Et à force d'expliquer la même chose, je me dis, tiens, je vais écrire un petit livre. Voilà. Et donc, j'ai écrit et j'ai publié en 2015 mon premier livre, Épargnons 3.0. Aujourd'hui, je suis à la troisième édition, donc je le mets à jour relativement régulièrement. Voilà. Et il a très bien marché. Et de fil en aiguille, j'ai continué à me perfectionner, à partager. J'ai écrit un deuxième livre, voilà, un blog. Voilà. Et donc, maintenant, je suis relativement connu à la fois par les particuliers et les professionnels sur ce marché. Et puis voilà, je suis même devenu prof de finance vacataire, cours de finance classique, hein, de corporate finance et des finances d'entreprise, à l'ECP en l'occurrence.
Ah ouais, chouette.
Voilà, où j'enseigne. Et c'est hyper intéressant d'enseigner des choses fondamentales, parce que dans mes livres, j'ai toujours eu un lien très fort avec l'académique, c'est toujours très sourcé. Donc voilà, donc la transition s'est fait un peu de façon naturelle.
Très très beau parcours qui semble totalement naturel en fait quand tu le racontes finalement, en achetant une action à 12 ans et puis en terminant par effectivement transmettre tout ce savoir à l'école. Je pense que c'est une belle histoire. Et est-ce que tu peux, pour les auditeurs qui nous écoutent et pour moi aussi, nous donner ta définition de la gestion passive justement sur les marchés financiers ?
Ouais, alors... Gestion passive et même ETF, il y a des définitions usuelles et puis il y a les vraies définitions quand on se pose la question des si on veut vraiment faire la différence précisément avec d'autres types de gestion. Mais bon, la gestion passive, ça veut dire laisser faire le marché pour faire court. Okay, donc c'est que si le marché dit que dans un portefeuille il faut qu'il y ait 3% d'Apple, eh ben on va acheter 3% d'Apple. On va pas se poser la question est-ce que je préfère avoir Apple à Tesla. Voilà. C'est ça la gestion passive. Donc normalement, on fait pas grand chose quand on fait ça. On achète et puis on suit le marché, on suit les indices. Aussi, ça peut vouloir dire investir donc dans toutes les actions en suivant le marché et aussi sans jamais faire de market timing. C'est-à-dire, on n'investit pas, on n'essaie pas d'investir au plus haut, au plus bas. Pas au plus haut et au plus bas ou au meilleur moment. On suit, voire on fait régulièrement des investissements tous les mois, tous les 15 jours, tous les ans, c'est un peu égal. Donc voilà, c'est ça la gestion passive de manière très simplifiée. C'est ça qu'on veut faire. Après, on peut avoir des débats. Et l'exemple que je donne, j'ai d'autres profs de finance de l'ECP qui sont tombés de leur chaise quand je leur ai raconté ça. Après, c'est un petit peu du storytelling pour faire réfléchir les gens. Je dis, finalement, le plus grand gestionnaire passif de tous les temps, c'est Warren Buffett. Mmh. Quand Warren Buffett dit « Vous devez investir dans une action pour le détenir pour tout le temps », c'est effectivement, c'est être passif. Ouais. Et c'est en même temps le plus grand gestionnaire actif de tous les temps, en ouais. même temps. Donc, j'aime bien ne pas trop opposer les choses et être dans le un peu plus subtil. D'ailleurs, Warren Buffett défend la gestion passive au sens où je le disais tout à l'heure. Voilà. Et il aime bien voilà, les ETF, peut-être pas spécialement les ETF en tant que tels, mais en tout cas la gestion passive, il aime bien le fait de laisser faire le marché, bien qu'il ait cherché lui-même à surperformer le marché. Voilà, le diable est dans les détails aussi, parce qu'on peut très bien utiliser des produits de gestion passive, comme des ETF, et le faire de façon en gestion active. Si on dit, je veux avoir 40% d'émergents ou 40% d'émergents ce mois-ci et pas le mois prochain, ça devient de la gestion active en utilisant des produits indiciels ou des produits passifs. Donc, il y a toute un éventail de couleurs, du blanc au noir qui fait que c'est actif ou c'est passif. Voilà. Mais la gestion passive.
La passivité, elle est effectivement relative, elle dépend du degré d'activité qu'on veut mettre aussi. Moi, j'ai l'impression que sur un ETF, mais tu vas nous expliquer ce que c'est un ETF, j'ai l'impression que moi, la vision que j'ai, c'est-à-dire que si je suis actif, je vais sélectionner mes valeurs, je vais investir dedans, je vais me renseigner, je vais regarder les chiffres, je vais regarder les projets de l'entreprise, je vais regarder ses fonds propres, je vais regarder plein de détails. Voilà, on pourrait en faire un épisode entier sur comment analyser vraiment une action, enfin une entreprise pour justement y acheter une action ou pas. Donc tout ça, c'est du boulot. Moi, quand je me dis j'achète une ligne d'un ETF, je me dis c'est passif. Pourquoi ? Parce que ce boulot-là, il a été fait déjà par finalement la boîte qui édite l'ETF. C'est-à-dire souvent, c'est un fonds qui édite l'ETF. Est-ce que c'est ça, en fait, la passivité que tu viens chercher en premier ?
Alors, le boulot, il a été fait plutôt, je dirais, par l'ensemble des acteurs du marché. Si on achète un ETF, comme je disais tout à l'heure, donc on est censé acheter la plupart des ETF. Tous les ETF ne sont pas faits comme ça exactement, mais disons, les ETF historiques, classiques, etc. Si on prend par exemple l'ETF encore en vie le plus ancien, c'est un ETF sur le S&P 500, l'indice américain, il existe depuis 1993.
Okay.
Le premier ETF dans le monde, il est plutôt né au Canada, mais après, ils n'ont pas vécu très longtemps en 1990. Donc, l'ETF le plus connu au monde, c'est celui-là, là, qu'on appelle Spider. Bah, il achète toutes les entreprises de l'indice S&P 500. Mais ce n'est pas le gestionnaire qui fait ça. C'est le marché qui dit, il y a X% d'Apple, il y a X% de Tesla, il y a X% de toutes ces entreprises de Microsoft, ouais, etc., ouais, dans cette entreprise. Parce que le marché, c'est plein de professionnels qui achètent et qui vendent des milliers de fois par seconde sur ces entreprises-là, ces entreprises, et qui créent le prix et qui disent, bah voilà la valeur de mon entreprise, effectivement, en bourse. Et si on se réfère à la théorie académique classique, la théorie des marchés efficients, eh ben c'est le meilleur prix en bourse, bah c'est ce prix-là. Alors évidemment, on peut réfléchir, comme tu le disais, à est-ce qu'il y a un meilleur prix. Bon, ça marche quand même moyennement bien, d'ailleurs, on peut le voir, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, on y reviendra certainement, les professionnels font moins bien que le marché. Mais voilà, c'est extrêmement difficile de battre cette intelligence collective qui donne une valeur à une entreprise en bourse. Et donc, si on achète une entreprise, on fait confiance au marché, et c'est-à-dire à l'intelligence collective de tous les acteurs du marché. Donc, on fait confiance à BNP, Goldman Sachs, etc.
Mais, voilà. Si par exemple, je veux justement plutôt m'investir dans un secteur donné, c'est-à-dire admettons le pharmaceutique, je vais aller souscrire du coup à des comment ça, on appelle ça, des parts d'ETF, comment on peut appeler ça, je vais aller souscrire à des parts d'ETF qui est vraiment thématique et donc très sectorisé pharmaceutique. Là par contre, c'est là où moi je me dis, je me remets, si tu veux, à la professionnalisation des gens qui éditent l'ETF et qui vont aller prendre telle ou telle valeur. Est-ce que ça bouge souvent? Comment ils font leur arbitrage au sein même d'un ETF?
Alors là pareil, en fait c'est un sous-indice. Et donc, on peut prendre effectivement des plus petits indices que les indices que j'ai donnés. En fait, il y a des dizaines de milliers d'indices. Donc là, ça va prendre un secteur. Mais si tu veux, le secteur, il est quand même relativement défini. On sait ce que c'est qu'une entreprise pharmaceutique. Donc normalement, l'indice, il ne se pose pas de la question, est-ce que je prends cette valeur-là ou cette valeur-là. C'est pharmaceutique, ça répond à ces critères. Bah voilà, oui ou non. Après, quand on devient spécialisé, c'est que voilà, bah, pharmaceutique, mais à combien de pourcents, qu'est-ce qu'on fait des holdings, il y a quand même un jugement. Même dans le S&P 500, hein, tout à l'heure, je disais que tout était automatique, mais il y a quand même un comité qui va dire, tiens, je le mets dedans, je le mets pas dedans. Bon, voilà, encore une fois, c'est pas tout noir ou tout blanc, mais si on veut se simplifier la vie, il faut se dire que c'est automatique. Voilà, c'est
donc un secteur. Clairement, entre un ETF, par exemple, de chez BlackRock ou un ETF de chez Elixir, qui est sur le même secteur, j'ai à peu près la même chose à l'intérieur, la même ventilation?
Oui, alors il peut y avoir des règles des indices qui ne sont pas exactement les mêmes, mais normalement, si vous prenez un indice Pharma Europe, bah, c'est quasiment la même chose. Bien sûr qu'il y a des règles qui peuvent être un petit peu différentes. Bon, ça se ressemble beaucoup. Et c'est pour ça, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est bien de se poser la question de quel est le meilleur ETF sur un marché. Mais c'est beaucoup moins impactant de se poser la question de quel est le meilleur fonds sur un marché. Les fonds, ils vont être très différents. Les fonds classiques, actifs, ils vont être très différents entre eux. Ils vont avoir des performances très différentes. Les ETF vont plus se ressembler et avoir des performances nettement plus proches. Ouais. Et c'est en ça qu'on peut dire que, d'une certaine façon, les ETF sont moins risqués parce que l'éventail de résultats est beaucoup moins large, en fait.
Et c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, tu vois, tout mon cheminement là, depuis tout à l'heure et toutes mes questions, je pense qu'elles sont justement dans ce flou entre le fonds et l'ETF. Donc peut-être que maintenant, c'est le bon moment pour définir ce qu'est un ETF, justement, tu vois, par rapport à un fonds, justement.
Bah, alors, un fonds actif, un fonds classique, il se pose la question de dire, est-ce que j'achète du Facebook ou du Microsoft dans les valeurs techno. Le fonds passif slash l'ETF, il se dit, je prends Facebook dans le même pourcentage que l'indice, que le marché boursier, enfin de Meta, pardon. Pareil, de Microsoft, de Tesla, de Johnson & Johnson, des banques, etc. Voilà. Il y en a un qui va chercher à surperformer le marché en cherchant les actions qui lui paraissent les plus intéressantes, et l'autre qui fait juste suivre.
Répliquer, ouais. Okay.
Le répliquer.
Ok. Donc l'ETF, ça veut dire quoi ? Très concrètement, donc on appelle ça un tracker aussi, je crois.
Voilà, un tracker. En fait, donc ça c'est ce que font la plupart des ETF.
Ouais.
Après, cet ETF, enfin, ce fonds passif ou indiciel, il peut être soit coté en bourse, soit pas coté en bourse, en fait. Ok. Donc le fonds passif, s'il est coté en bourse, le fonds s'il est coté en bourse, ça s'appelle un exchange traded fund. C'est juste un fonds coté en bourse. Mmh. Voilà. La plupart des fonds cotés en bourse sont passifs. Mais on voit une tendance qui montre que certains fonds actifs sont choisis désormais, surtout aux États-Unis, d'être cotés en bourse pour différentes raisons. Ça ne sert à rien de les développer ici, mais c'est une tendance de fond qu'on va voir, où c'est une bonne façon de, pour des raisons fiscales aux États-Unis, puis pour des raisons de distribution en Europe, ça peut faire du sens. Okay ? Donc ça, c'est une autre caractéristique des ETF et pas des fonds passifs, c'est d'être coté en bourse, donc d'être disponible partout dans n'importe quel compte-titre, PEA, etc. Si vous êtes un fonds normal, en fait, vous devez être distribué par des gens qui vous distribuent, okay, par des conseillers en gestion de patrimoine, par des banques, des courtiers en ligne, etc. Et donc, il faut être référencé, et les gens qui distribuent, ils doivent être rémunérés. Et c'est pour ça que les frais, c'est une des raisons pour les frais sont plus élevés, c'est parce que une partie de la rémunération va à la distribution. Voilà. Mmh. Donc ça, c'est une différence aussi qui est importante sur les ETF, c'est le mode de distribution qui est assez différent. Et la cumule des deux fait que les frais des ETF sont largement inférieurs aux frais des fonds actifs classiques. Voilà.
Ok. Ces ETF, je peux les acheter où, moi? Par exemple, tout seul.
Les ETF, on peut les acheter en bourse sur un compte titre ou sur un PEA, par exemple. Et puis maintenant, ça commence à se développer depuis quelques années. Avant, c'était sur seulement quelques contrats d'assurance vie, mais maintenant, on commence à en voir de plus en plus sur de plus en plus de contrats d'assurance vie et de plans épargne retraite. Voilà.
Ok. Bon, alors, sachant que sur le PEA, par exemple, je peux acheter que de l'ETF européen, c'est ça ?
Non, alors on peut acheter sur le PEA, on peut acheter que des entreprises qui ont leur siège social dans l'Union économique européenne. Ouais. Mais les ETF ont trouvé un petit trick qui fait que on peut acheter certains types d'ETF qui répliquent, qui suivent des indices non européens. Donc on peut être exposé à des indices internationaux comme le S&P 500, comme le MSCI World qui suit plus d'une vingtaine de pays développés dans le monde.
Ok.
Non. Donc, voilà. Donc, ça permet une diversification sur le PEA qui est très importante. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable, phénoménal, dont il faut absolument profiter. Parce que, voilà, pour des frais extrêmement faibles, on a une diversification géographique internationale. Et c'est vraiment exceptionnel.
C'est justement, tu vois, c'est comme quand t'as trop de choix au restaurant, tu mets plus de temps à choisir que quand il y en a moins. Ouais. Là, il y a beaucoup, beaucoup d'offres sur le marché des ETF, hein, j'ai l'impression, de plus en plus. Qu'est-ce qu'on peut y trouver du truc le plus farfelu jusqu'au truc MSCI World, effectivement, où là, c'est assez simple.
Alors oui, il y a à peu près, ça dépend comment on compte, mais 9000 ETF dans le monde. Mmh. Donc voilà, quelques milliers en Europe, entre 500 et 1000 sur Euronext, Paris, Amsterdam, etc. Donc ça fait effectivement beaucoup de choix. Et un ETF, c'est juste un fonds qui est coté en bourse. Donc on peut y mettre n'importe quoi, on peut mettre des choses très simples, comme tu le disais, et des choses très compliquées. Ça ne pose aucun problème.
Ouais.
Et ça répond à des besoins différents. Donc, je ne porte pas de jugement de valeur sur le niveau de complexité. Donc, on peut trouver dans moi ce que je trouve le plus simple et le plus adapté pour quelqu'un qui veut faire de la gestion passive, être très diversifié, investir sur le long terme, bien dormir la nuit, y aller tranquille sur la durée, ce qui est moi, mon style et ce que je partage sur mon blog, dans mes livres, dans ma formation, etc. Là, on va prendre un indice, on va prendre un ETF qui suit un indice large, comme le MSCI World. C'est un indice qui suit 1600 plus grandes entreprises dans le monde, dans les pays développés. Bah voilà, c'est très simple. Ça fonctionne sur le long terme. Voilà. On peut acheter un indice S&P 500, des 500 plus grandes entreprises américaines. Ça fonctionne sur le long terme. Voilà. Ça, c'est le simple qui fonctionne. On prend, bien sûr, on a une risque de perte en capital. Hein, ça, c'est l'investissement. Mais bon, voilà. Le rapport rendement sur risque est très bon. Et aussi, le rendement prise de tête. Finalement, ouais. Voilà. C'est relativement facile à comprendre. Voilà. Donc, on a ça. Après, on peut choisir des ETF et se dire, ah, tiens, je vais choisir, comme tu disais, hein, ce mois-ci, les entreprises pharmaceutiques, le mois d'après, les gens qui produisent de l'or, le mois d'après, etc., et se poser ces genres de questions. Il y a des ETF obligataires, mais même, alors en même temps, je cherche, parce que je donne souvent cet exemple que, justement, on peut toujours faire compliqué si on veut. Il y a, alors j'arrive pas à retrouver sous la main, c'est dommage. C'est un ETF qui investit sur les obligations et sur le taux d'inflation break-even. Bon, en achetant des inflations indexées, des obligations indexées sur l'inflation à 10 ans et en vendant short à découvert des actions pas indexées sur l'inflation à 2 ans, par exemple. Alors, je me souviens plus exactement si c'est dans ce sens-là, dans le sens inverse, etc. Mais en tout cas, c'est compliqué. Rien que quand on lit le truc, c'est compliqué. Donc, on peut mettre dans un ETF un truc compliqué. Ça ne pose pas de problème. Voilà.
Et en matière de thématique, qu'est-ce qu'on peut avoir comme truc un peu exotique? Est-ce qu'il y a des ETF, par exemple, sur le business du cannabis légal ou médicinal?
En Europe, je sais pas, aux États-Unis, oui. Ouais. En Europe, il y en a peut-être maintenant. Ouais. Voilà, bah, il y en a sur les entreprises qui travaillent dans le monde de la crypto, du crypto. Ouais. Okay, par exemple.
Est-ce que ça peut être un bon moyen justement de sans aller justement aller détenir de la crypto sur un exchange, etc. D'ailleurs, avec toutes les problématiques qu'ont vécu les exchanges dernièrement, est-ce que ça peut être un moyen d'être investi en crypto sans en être, en fait?
Alors. Sur le marché des matières premières, disons au sens large, il y a les cryptos. On va dire que les cryptos sont des matières premières pour faire court, mais disons il y a aussi l'or, le pétrole, le blé, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que alors ça dépend. L'or c'est différent, mais sur le pétrole par exemple, il y a disons les ETF matières premières qui investissent dans les entreprises qui investissent dans les matières premières, et il y a quelque chose qui ressemble à un ETF, qui n'est pas un ETF, hein, qui est un ETC, qui investit vraiment dans la matière première, dans le pétrole. C'est deux choses relativement différentes. Donc, les ETF qui investissent dans les entreprises de matière première, elles vont investir dans Shell, Total, des choses comme ça. Mais comme tu te doutes, ces entreprises, elles sont pas complètement... L'évolution des actions de ces entreprises n'est pas complètement corrélée au cours des matières premières. Voilà. Surtout si elles font de l'aval plutôt que de l'amont, a fortiori. Alors s'il y avait que de l'amont, ça serait peut-être un peu plus corrélé, j'imagine. Mais voilà, c'est-à-dire que l'amont étant l'extraction, sur la distribution, voilà, c'est pas complètement corrélé. Donc on peut avoir des surprises. Voilà, j'ai des stats effectivement qui montrent que parfois on voit Total baisser quand le cours du pétrole monte et vice versa. Voilà, c'est pas si simple. Donc pourquoi pas, mais en tout cas, pour avoir une corrélation forte à la matière première, c'est pas évident. Donc, on peut acheter un exchange traded commodity, qui est un produit coté en bourse, qui n'est pas un fonds, c'est autre chose. Voilà, qui va investir dans le pétrole. Après, il faut quand même faire attention, c'est que, comme je disais, c'est pas un fonds, ça ressemble plutôt à une obligation, hein, plutôt que, on n'est pas vraiment actionnaire. C'est que l'entreprise qui émet ce produit financier a une dette envers nous, okay, alors que dans l'autre, on est actionnaire du fonds, détient une part du fonds. Et par ailleurs, par exemple sur le pétrole, on ne va pas investir sur le marché spot. Le spot, c'est le marché immédiat du pétrole. On va investir sur le marché des contrats à terme, le marché futur. Parce que si on achète sur le marché spot, c'est-à-dire qu'il faut entreposer le pétrole. Et les gens, on n'a pas, si on achète 1000 euros de pétrole, on n'a pas envie de se retrouver avec un bout de baril de pétrole chez soi, hein, pour faire court. Donc en fait, on achète à 3 mois, 6 mois du pétrole, et ce qui fait que il faut revendre quand ça devient trop proche. Quand on achète à 3 mois et que l'échéance arrive là, à 3 mois et moins une semaine par exemple, et ben on revend pour acheter 3 mois plus tard. C'est un peu plus compliqué que ça, ça s'appelle rouler une position. Mais ça, ça entraîne des complexités qui fait que c'est pas toujours complètement corrélé non plus avec le marché d'évolution des matières premières. Donc là aussi, on peut avoir des surprises. Donc exotique, j'utilise le mot, veut dire complexe, veut dire effet de bord, veut dire on maîtrise. Il faut bien se poser la question sur ce qu'on veut faire. Voilà. Donc voilà, il faut bien réfléchir. C'est possible, mais il faut faire attention.
J'avais cet exemple aussi avec l'or, effectivement, où tu vois, j'avais cru comprendre qu'il y avait des ETF qui vraiment achetaient de l'or. Genre, tu mettais 1 000 euros dans l'ETF, avec ces 1 000 euros, ils achetaient de l'or qu'ils stockaient eux-mêmes. Ouais. Et donc là, c'était vraiment très un ETF physique. Alors, je sais pas, c'est peut-être un ETC du coup, comme tu, je sais pas.
Mais c'est pas très grave, oui.
Ouais. Voilà. Et en fait, et sinon, j'avais juste un ETF qui répliquait. L'indice effectivement du cours en fait de l'or, et ça c'est un ETF synthétique, c'est ça, ou c'est quoi la différence?
C'est encore une différence entre qui n'a rien à voir avec l'ETF synthétique et l'ETF à réplication physique. C'est plutôt effectivement des commodités.
Ok,
voilà. Et après, comme je disais tout à l'heure, en fait c'est l'entreprise à laquelle on achète ce produit qui nous doit de l'argent, okay, comme une obligation. Okay. Ben en fait, ils peuvent s'assurer derrière contre quelque chose. Voilà, j'ai investi 1 000 euros. Ben en échange, eux, ils ont un stock d'or. Voilà.
Ouais, okay.
Qui va s'échanger. Voilà. Donc c'est une forme d'assurance et ils ont du vrai or en stock dans en Suisse, à Londres, voilà, dans différents pays qui peuvent rapatrier, voilà. Alors que sinon c'est juste sur leur fonds propres, s'ils mettent pas en place sur ils peuvent s'assurer aussi de d'autres manières, hein. Mais voilà, donc ça peut paraître plus sécurisé qu'ils aient un stock d'or en face. Voilà.
D'accord. OK, je comprends.
Pareil pour les bitcoins. Voilà, si on achète un ETF, un ETC Bitcoin, bah si l'entreprise à laquelle on achète les bitcoins, l'émetteur de l'ETC a des bitcoins en stock, bah c'est quand même un peu plus sécurisé.
Ouais, je comprends. OK. Et du coup, un ETF synthétique, alors j'avais ça en tête, c'est quoi ça, ça se matérialise comment?
En fait, il y a différentes façons de faire de la réplication d'indices. Il y a, disons, trois grandes façons. La façon la plus simple et la plus compréhensible, c'est, comme je disais tout à l'heure, dans la S&P 500, il y a 3% de telle banque, on va acheter 3% de telle banque, on achète les actions, on le met dans l'ETF et après on revend l'ETF. Bon, voilà. Ça réplique de façon directe. C'est ce qu'on appelle la réplication physique ou directe. Moi, je préfère la réplication directe.
Okay.
Ça, c'est la première façon. Il y a une sous-façon de cette façon, c'est la réplication directe à échantillonnage, sampling. Si on prend un ETF qui suit un indice qui a énormément d'actions, par exemple, si on suit un ETF qui suit un indice qui s'appelle le MSCI World ACWI, c'est-à-dire y compris les marchés émergents, IMI aussi, y compris les petites capitalisations, bah c'est un indice qui suit plus de 8 000 sociétés dans le monde. Mais il y en a quand même plein qui vont pas tellement influencer l'évolution du cours de l'indice. Et ça peut coûter cher de répliquer toutes ces indices. Okay, d'acheter toutes ces entreprises par petits bouts, etc. Donc, ce que peut faire l'émetteur d'ETF, c'est de dire, bah, je vais en suivre 6 000, 4 000, 2 000, et je vais le faire de manière intelligente pour que ça suive correctement. Okay, ça prend un échantillon. Ce qui fait que l'écart à l'indice, bah, il va exister un petit peu, mais il ne devrait pas être si élevé que ça, parce que l'objectif, c'est d'avoir l'écart le moins élevé possible. Mais voilà, ça coûte un peu moins cher de ne pas acheter les 8 000 actions. Donc ça, c'est un premier groupe, c'est la réplication physique, soit totale, soit à échantillonnage. À échantillon.
Okay.
Après, il y a la réplication qu'on a appelée historiquement synthétique et que je préfère appeler indirecte. C'est un petit tour de passe-passe, ça, il faut être honnête. C'est qu'on achète des actions très liquides, physiquement. Et après, on achète à une banque un contrat qui échange l'évolution de ces actions contre l'évolution d'un autre indice. On achète des actions européennes et on dit à une banque, je voudrais faire un contrat avec toi pour échanger contre la performance du S&P 500.
Ouais, effectivement, ça paraît pas très compréhensible comme ça tout de suite.
Mais voilà, mais bon, ça, c'est un contrat dérivé, hein, c'est un produit synthétique, on l'appelle comme ça, voilà.
Et pourquoi eux n'achètent pas, c'est quoi l'intérêt? Pourquoi ils n'achètent pas directement?
pour plein de raisons, et parce que les émetteurs des ETF aussi parfois sont plus petits que les banques. Et les banques, c'est plus facile d'aller investir dans des petits marchés émergents que les émetteurs d'ETF pour aller jeter. Et après aussi, pour des raisons, sont des banques d'investissement qui ont des gestions fiscales à gérer pour leurs grands clients. Voilà, il y a tout un... c'est la finance. Voilà, c'est un produit financier, c'est le monde de la finance, voilà. Il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte, mais en tout cas, ils font des échanges et c'est quelque chose de relativement courant de le monde de la finance. Hein. Ça s'appelle un swap de performance.
Voilà. Okay.
Ça peut être pour des raisons fiscales aussi. Voilà, ça peut être plein de choses. Et donc, on fait cet échange. Mais le prix, comme tu le vois, en fait, on détient quand même en physique plein d'actions. Et le prix de ce swap, en fait, c'est une toute petite partie. Donc, c'est pour ça que je préfère partiellement synthétique ou indirect, parce qu'en fait, ce contrat, c'est une faible partie de l'ETF. En plus, la plupart du temps, il est ré-signalisé tous les jours. Donc, on ne dit pas, tiens, je t'échange pour l'année prochaine ou pour les 5 prochaines années. C'est je t'échange aujourd'hui. C'est un peu plus compliqué que ça, mais voilà. Et en plus, c'est même... parfois assuré spécifiquement, voilà, donc c'est quand même très sécurisé. Donc voilà, et c'est ce qui fait que dans le PEA, la règle normalement c'est d'avoir 75% d'actions européennes de la zone euro, mais là donc on a largement plus que 75%, mais on fait un contrat de swap au-dessus, et ce qui fait qu'on est exposé en ayant du LVMH total au S&P 500 ou au marché émergent.
D'accord. Voilà.
Et ça, c'est la réplication synthétique.
Donc, c'est ça qui permet, via un PEA, notamment d'investir dans des entreprises américaines, quoi, par exemple. Okay.
Exactement. Aux États-Unis, c'est interdit. Ça n'a pas été le cas aux États-Unis.
Ah ouais.
En Europe, et c'était historiquement plus synthétique pour différentes raisons, plus synthétique que physique. Le physique a repris le pas, mais je pense que le synthétique a toute sa place sur pas mal de marchés, notamment sur le marché obligataire, ça vaut le coup. Et si on regarde bien, il y a pas mal de marchés où les ETF synthétiques sont plus performants que les ETF à réplication directe, d'ailleurs.
La troisième, du coup, le troisième type d'ETF.
Bah, en fait, c'était 1A et 1B, et voilà. Donc, c'est direct total, direct à échantillonnage ou indirect, voilà.
Ok. Donc il y a deux grosses familles dont une sous-famille. Ok. Exactement. Bon, très bien. C'est quoi pour toi une bonne stratégie d'investissement passif? Par exemple, question très très concrète. Est-ce qu'il vaut mieux avoir 100 lignes, vu que c'est passif, donc ça veut dire une fois que tu les as, tu les touches pas, ou je prends vraiment à l'extrême, ou alors il vaut mieux avoir 10-20 lignes, les connaître assez bien malgré tout au départ, quitte à pas trop s'en occuper après.
Alors, ça dépend quel type d'investissement, de quel type d'investissement passif tu parles. On peut, en théorie, faire de l'investissement passif sur des actions en direct. Mmh. Avoir 100 actions en direct et ne pas y toucher. Mmh. On peut faire ça.
Est-ce que ça, pour toi, c'est quelque chose qui est quand même plutôt courant
Je pense que c'est pas très courant, mais si. Enfin, je sais pas. Il y a des gens qui changent pas toutes les 5 minutes d'avis, hein, quand même. Voilà, qui ont gardé leurs actions. En France, je pense qu'il y a quand même pas mal de gens. Mais après, c'est rarement 100 actions, mais qui ont du air liquide depuis très longtemps ou des choses comme ça. Voilà. Stratégie bon père de famille, comme on le dit. Hein, bonne mère de famille pour être plus équitable dans la gestion du foyer. Sachant que, petit aparté, les femmes sont meilleures en investissement, je tiens à le dire, que les hommes. Ça, c'est prouvé. Scientifiquement par les chiffres, donc
beaucoup moins de 100.
Exactement, voilà. Donc celles qui sont capables effectivement de faire de l'investissement passif et de performer sur le long terme, ce sont essentiellement statistiquement les femmes, hein. Exactement.
Mais tu vois, je me dis gérer 100 lignes dans une entreprise de la tech par exemple, c'est impossible sur le long terme, ça bouge trop.
Je suis d'accord, mais justement le but c'est de ne rien faire. Donc on achète et puis on fait rien.
Ouais, mais le marché bouge tellement, une boîte de la tech aujourd'hui vaut tant, demain elle vaut rien. Enfin, tu vois, Air Liquide, bon, c'est quand même assez flat. Enfin, tu vois, c'est vraiment comme tu dis, épargne père tranquille, quoi, ou mère tranquille. Mais il y a des boîtes aujourd'hui où t'as quand même des swings qui sont beaucoup plus importants. Donc tu te dis, cette variance-là, quand même, si tu la suis pas un minimum, tu te rends compte qu'en fait la boîte elle existe plus, quoi, au bout d'un moment, tu vois.
Exactement. Je suis d'accord avec toi. Donc, mais c'est juste pour être ouvert d'esprit, potentiellement refermer des portes. Il y a des gens qui pensent à faire ça. Ouais. En revanche, pour aller complètement aller dans ton sens, il suffit de regarder les 10 capitalisations les plus importantes du S&P 500 ou du monde en 1990, 2000, 2010, 2020. Ça n'a rien à voir. Donc effectivement, si on se dit, tiens, je vais acheter le top 10, parce que le top 10, bah, c'est telle boîte, et on se dit, bah, ça ne peut pas moins bien marcher. Mais en fait, si. Ce n'est pas parce qu'on est numéro 1 qu'on reste numéro 1. Voilà.
Ouais, ouais, ouais.
Donc, il y a plein de gens qui se disent, tiens, et ce n'est pas spécialement sur ces entreprises. Voilà, Google, ça ne pourra être indétrônable en moteur de recherche, par exemple. Force est de constater que les moteurs de recherche, ils ont largement changé. Voilà. Et on pensait que, à l'époque où, hasta la vista, là, ou Lycos, ça marcherait super bien pendant toute la vie, quoi. Et ouais. Force est de constater que c'est pas le cas. Meta, ça a été au top, c'est quand même beaucoup moins au top. Voilà. Donc, comme tu dis, ça change. Donc, est-ce que c'est une bonne stratégie? Non. Moi, j'ai même fait des statistiques pour montrer que, ça marchait pas. Il y avait une différence, de pourcentage, significative dans l'article que j'ai écrit sur la S&P 500, je le montre, voilà, preuve à l'appui de ce que c'est que d'investir dans les 10 premières entreprises et d'avoir rien fait, bah, ça marche beaucoup moins bien que de suivre l'indice qui, lui, quand même, fait un petit travail actif de sortir les moins bons et de racheter les moins mauvais, quoi. Voilà, il est petit, mais il existe quand même. Il est petit, c'est à peu près 2% par an sur le S&P 500, je dirais, comme ça de tête, mais ça fait le boulot. Bon, surtout sur les plus grosses entreprises, les 10 premières, elles sortent et elles rentrent quand même assez largement. Voilà. Donc, il pourrait y avoir ça. Après, moi, avoir 100 ETF, ça, je pense que c'est n'importe quoi.
Ouais.
Avoir 10 ETF, on peut se poser la question. Alors, en mélangeant les ETF obligataires et actions, ça, pourquoi pas. Après, moi, je pense qu'il faut viser la simplicité, que multiplier les lignes, ça sert à rien. Parce que, par exemple, si on a le MSCI World, on a tous les pays développés, bah, qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? Voilà.
Ouais, donc il te faudrait une ligne pays émergent pour compenser un peu.
Bon, voilà, on rajoute une ligne pays émergent, ouais. Etc. Après, on peut quand même fine-tuner, parce que par exemple, les indices MSCI World, ils sont plus chers que les ETF MSCI World, ils sont plutôt sur le PER, en tout cas, ils sont plus chers que les ETF pris individuellement. Donc, si on prend un ETF S&P 500 et un ETF Europe, on arrivera à moins cher, à des frais moins élevés, que celui du MSCI World. Donc, c'est toujours ça de prix. Après, et ben voilà, qu'est-ce qu'on fait du Japon? Ça oblige à se poser ces questions-là aussi. Donc, ça demande un peu plus de réflexion, de maintenance. C'est pas impossible. Donc, on peut aller monter jusqu'à 10 ETF. Tout à l'heure, tu me disais que tu avais interviewé célèbre Robo Advisor qui investissait lui-même dans les ETF. Bah, les robots advisors, allez, ils ont 10-15 lignes aussi, et c'est des professionnels qui suivent ça toute la journée. Ouais. Donc, je pense qu'un particulier, ça ne me semble pas très sain d'avoir plus de 10 lignes de TF. Et ce qui permet de durer, c'est de la simplicité. Voilà. Donc, moi, je prône beaucoup la simplicité. Voilà.
Okay, c'est très intéressant ce que tu es en train de dire, parce que tu vois, moi, le premier, bon, alors moi, j'aime bien toucher à tout, donc c'est vrai que souvent, je me disperse un peu, tu vois. Je me dis, OK, ça a l'air sympa. Tiens, j'investirais bien dans tel domaine et autres. Et je me retrouve facilement avec plusieurs lignes, tu vois, soit d'action, soit d'ETF. Sauf qu'en fait, je ne les suis pas au bout d'un moment et je me rends compte que ben, finalement, l'ETF russe, ben, il a perdu 80%. Parce que, tu vois, non, mais c'est des trucs, voilà, parce que je m'en suis pas occupé alors que j'aurais dû, tu vois, me dire, attends, ça va péter en Russie, putain, l'ETF, il faut que je clôture ma position directe, quoi. Enfin, tu vois, et c'est des choses, je m'en suis pas du tout occupé. Bon, ben, aujourd'hui, je me retrouve avec un ETF russe qui vaut plus rien, tu vois, par exemple. Ouais.
Mais j'en ai un aussi, ETF russe. Si ouais, tu veux tout savoir, donc toi tu peux te sentir moins seul.
Ouais, voilà.
Après, moi je peux te dire pourquoi est-ce que moi j'investis dans ETF. Parce que moi j'aime bien, donc moi j'investis en ETF très largement. Après, je suis pas sectaire, j'ai d'autres choses. Et j'aime bien par principe aller aussi tester sur une petite partie de mon capital certaines choses pour voir si je suis malin et me démontrer par l'exemple que je fais pas mieux que le marché. Donc pour moi, c'est une petite piqûre de rappel que il faut pas aller chercher les trucs compliqués. Donc donc j'ai aussi perdu un petit peu d'argent sur un ETF russe, voilà.
Ouais, mais je suis un peu comme toi. Enfin non, je suis même carrément comme ça aussi, tu vois. Souvent je me dis je sais qu'il va se passer ça, mais je vais quand même le faire pour aller me confirmer que j'avais raison, tu vois.
Ouais, c'est ça.
Et c'est con hein, parce que souvent on t'a raison.
C'est une bonne façon de lutter contre ces biais cognitifs à mon avis. C'est pas facile de lutter contre soi-même, donc il faut trouver toutes les techniques permettent de lutter contre soi-même. Voilà.
Ouais, mais au final, ça te coûte toujours soit du temps, soit du pognon, quoi. Donc c'est dommage, ouais. Tu vois.
Ouais, mais ça te coûterait rien. Tu n'aurais pas cet effet qui dit tiens, ça m'a fait mal un
ouais,
peu
c'est
et
vrai.
Je,
c'est
je,
vrai,
je vais arrêter. Tu vois.
C'est vrai, c'est vrai. Oh, très clair. Est-ce que t'as d'autres tips comme ça à nous livrer sur justement l'investissement dans les ETF ou la gestion passive?
Je pense que quand on investit en ETF, il faut bien comprendre les indices. Voilà, parce que comme je disais, ça, il peut y avoir n'importe quel type d'ETF. Il faut bien comprendre les indices, savoir ce qu'il y a dedans. Parfois, les indices se recouvrent. Et donc, je vois pas mal de portefeuilles d'ETF où effectivement, les gens empilent les couches en se disant que c'est plus compliqué, donc ça va être mieux, c'est plus malin. Voilà, les gens, ils cherchent la complexité. Voilà, par exemple, j'ai pas les stats sous les yeux. Moi, je suis en train de réécrire un article sur le S&P 500 et le Nasdaq. Voilà, je pense que 50% du S&P 500, c'est des entreprises du Nasdaq. Donc, avoir un ETF S&P 500 et Nasdaq, bon, ça se recouvre très largement. Alors, ouais. Si on est au courant, pourquoi pas? Mais bon, il y a des gens qui le font sans être au courant. Il suffit de voir les premières lignes du S&P 500, hein, Meta, Microsoft, etc. Tout ça, c'est des entreprises.
Ouais, c'est du Nasdaq. Nasdaq.
donc voilà. Mais ça peut arriver sur d'autres indices. Donc voilà, c'est un exemple. Il faut faire attention à ça. Pareil sur les indices ESG, vert, etc. Bah, je vous conseille de vraiment regarder ce qu'il y a dans l'indice pour pas avoir de surprises. Un exemple parmi d'autres, c'est que en Europe, ce qui n'est pas le cas nécessairement aux États-Unis, mais la stratégie de sélection des indices dit vert / ESG, c'est ce qu'on appelle le best in class, c'est-à-dire les meilleures entreprises socialement responsables de tous les secteurs. Donc, on va se retrouver avec les entreprises les plus responsables, par exemple, du secteur pétrolier. Donc, il ne faut pas s'étonner, quand on sait ça, d'avoir potentiellement du Shell, du BP, du Total dans son ETF ou son fonds, d'ailleurs, fonds actif vert.
Ouais.
Donc, il vaut mieux lire. Enfin, s'intéresser quand même un peu à l'indice sous-jacent. Pareil, les frais, il faut toujours regarder les frais. Voilà, quelques indices, quelques...
C'est quoi les frais en moyenne? C'est quoi un frais, on va dire, correct pour un ETF?
À plus de 0,5, il faut quand même se poser largement des questions. Trouver un ETF à 0,1% ou 0,2% devrait être largement accessible. Voilà,
okay.
Surtout sur le S&P 500 ou des grands indices comme celui-là. Voilà.
Il y a des porteurs d'ETF qui sont plus quali que d'autres, type, tu vois, je citais BlackRock, Lyxor, etc.
Non, franchement, ils sont tous bien. Il faut plutôt regarder ETF par ETF. Aussi, l'autre chose à regarder, c'est qu'il faut essayer de ne pas prendre des ETF qui sont trop petits, avec un encours trop petit. En revanche, c'est corrélé au fait d'avoir que ça suit des indices un peu...
De niche.
Voilà, de niche pointue. Voilà. Donc, c'est sûr que si on fait les biotech indiennes, il faut regarder. Regarder.
Ouais.
Voilà. Donc voilà. Après, je pense que... Voilà. Moi, je ne suis pas fan de ces niches. Voilà, je préfère les grands indices où on ne change pas toutes les 5 minutes d'avis. On a une allocation qui s'appelle stratégique et on suit cette allocation stratégique sur le long terme. Voilà. C'est ça qui me semble vraiment important.
OK. Et sur la partie logistique, donc si on veut acheter un ETF, est-ce que tu peux nous citer quelques endroits où c'est facile de le faire et où les ordres de mouvement ne sont pas trop excessifs?
Moi, dans la stratégie dont je parle, l'investissement passif, on ne fait pas énormément d'ordres.
Oui, donc finalement, ça pèse pas trop.
Ça pèse pas énormément. Après, c'est dommage de perdre sur cette partie-là pour une valeur ajoutée qui ne me paraît pas nécessairement énorme.
Oui, parce que là, en plus, t'es pas dans vraiment du timing de trading ou des choses comme ça. C'est pas grave si t'achètes une heure plus tard, quoi.
Exactement. Donc, les courtiers en ligne connus sont... Voilà, il y en a pas mal de très bien. Tu veux que je cite des noms spécifiquement?
Ouais, on peut en citer, sans vraiment en toute objectivité.
Voilà.
Quoi.
Moi, j'utilise beaucoup Bourse Direct, par exemple. C'est mon courtier principal. Ceux qui veulent avoir une banque qui n'est pas un courtier parce qu'ils ont leur compte déjà là-dessus, Boursorama, Fortuneo, ça marche super bien. Donc voilà. Donc ça, c'est surtout pour les PEA, ça me semble des bonnes solutions. Voilà. Après, sur le CTO, on peut un peu plus ouvrir, et notamment sur courtier étranger, potentiellement.
Type de
Giro. Voilà. Alors, donc on peut regarder ça. Il faut quand même faire attention, ils ne sont pas tous comparables. Il y y a des gens qui disent effectivement que si c'est gratuit, c'est vous le produit. Donc faites attention. Parce qu'il y a des gens qui... En fait, les coûts d'achat, ils viennent des frais de transaction en bourse, mais aussi de l'écart entre le cours acheteur et le cours vendeur. Et donc, certains courtiers peuvent faire des cours d'achat et cours vendeurs pas du tout favorables. Et en fait, ils se font de l'argent en revendant ces cours et en les dirigeant vos ordres à des hedge funds, etc. Donc, bon, voilà. Donc, si on choisit des courtiers étrangers, plutôt, j'aurais tendance à dire pas ceux de Malte ou des choses comme ça, voilà. Choisir l'Allemagne, les Pays-Bas, voilà, des choses comme ça.
Ouais.
J'aime bien aussi beaucoup Trade Republic, okay. Parce que Trade Republic permet d'acheter régulièrement une somme fixe mensuelle. On met 50, 100, 500 euros par mois et c'est fait automatiquement, ce qui est quand même super pratique. Voilà.
Quand c'est fait automatiquement, ça veut dire quoi? Tu choisis quand même dans quoi c'est fait ou dans le
Tu choisis dans quoi c'est fait, mais tu dis, ouais. J'achète tel portefeuille d'ETF pour 100 euros tous les 15 jours, tous les mois, etc.
Ce qu'on appelle le DCA, quoi, communément.
Voilà, exactement.
Okay.
Ouais. Alors que sur un compte titre ou sur un PEA, il faut le faire un peu il faut le faire manuellement en passant ses ordres tous les mois.
Okay.
Ça demande parfois une petite gymnastique parce que imagine que tu as un ETF qui cote 150 euros et tu dis je vais mettre 100 euros par mois. Bon, comment tu fais? C'est possible, tu achètes tous les deux mois, tu te débrouilles, tu trouves un ETF moins cher, il y en a, bien sûr qu'on peut s'en tirer. Mais là, ça se fait automatiquement, ce qui est quand même assez sympa. C'est possible de faire ça sur les assurances vie aussi. Voilà.
Ce DCA, là, on va s'arrêter deux minutes, effectivement. Donc, DCA, c'est Dollar Cost Average. Ça veut dire que tu investis de manière régulière pour lisser, justement, la variance des coûts, c'est ça de...
En fait, c'est que on ne sait jamais... Enfin, personne ne sait si c'est le bon moment d'investir ou pas. Ou c'est toujours le bon moment parce que c'est le prix du marché. On peut voir les choses.
Ouais.
Plutôt que se faire des nœuds au cerveau, on investit tous les mois, tous les trois mois, tous les ans. Bien sûr que, on peut toujours faire des calculs sur qu'est-ce qu'il faut mieux faire tous les 15 jours, tous les mois, etc. Mais ça fait des cacahuètes à la fin. Ce qui est important, c'est de le faire régulièrement et de pas le faire, en tout cas, parce qu'on pense que la Fed a fait telle chose, que machin, que y a une crise. Voilà, il faut le faire régulièrement. Voilà. C'est ça qui est important. Voilà.
Merci beaucoup, Edouard, pour toutes ces informations sur l'ETF, la gestion passive. J'ai appris pas mal de trucs, notamment techniques sur tu vois, les ETF, les types d'ETF, les réplications et autres. Si on veut aller plus loin, justement, et je sais que tu crées beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu sur le sujet et ça se sent que voilà, ça te passionne et que, en plus, t'as une vraie légitimité sur le sujet, où on peut te trouver sur quel canot?
Alors, essentiellement sur mon blog, épargnant3.0.fr. Donc, j'ai mon blog, j'écris des nouveaux articles régulièrement, je mets les anciens à jour, etc. J'anime ça, il y a une newsletter, il y a un guide gratuit sur les ETF. Donc voilà, si vous me cherchez sur Amazon, vous aurez accès à mes livres. Et puis, j'ai aussi une formation en ligne pour aider à créer votre propre politique d'investissement, ce que j'appelle portefeuille d'ETF, mais dans la durée. Voilà, répondre à des objectifs, voilà, pas juste créer un portefeuille d'ETF, et je vous aide pas à pas à créer ce portefeuille. Et je parle d'autres choses que les ETF, parce que les ETF, c'est un produit d'investissement, des produits d'investissement passif, il y en a d'autres. Il y a notamment les CPI, j'ai parlé de l'or, voilà, il y a d'autres façons de faire. Et ce qui est important, c'est d'être régulier, de lutter contre ces biais cognitifs et de diversifier. Voilà, donc c'est vraiment très important de diversifier. Voilà. Ma spécialité, c'est tous les produits financiers qui prennent une minute par mois.
Ouais,
voilà. C'est ça. Donc pas l'immobilier physique, voilà. Voilà, par exemple.
Je comprends parfaitement. T'as une chaîne YouTube aussi, t'as oublié de
dire. Oui, j'ai une chaîne YouTube.
Je te fais un peu de promo pour ta chaîne.
Merci.
Non, mais il y a des vidéos, en tout cas, je sais le temps que ça prend de faire des vidéos, de préparer. Donc autant qu'elle soit vue, quoi.
Ouais, c'est gentil. Ouais, et je fais pas mal effectivement des interviews aussi avec des acteurs spécifiquement des ETF. Donc elle est quand même assez centrée sur l'investissement passif et les ETF. Donc ça permet d'aller aussi assez loin sur ces sujets. Ouais.
Tiens, d'ailleurs, tu parlais d'immobilier. Dernier tips d'Edouard avant de clôturer cet épisode. Pour ceux qui, comme moi, sont fans de l'immobilier et qui aiment bien faire des états des lieux, etc. gérer toutes les merdes au quotidien. En vrai, c'est chiant quand même. Mais est-ce que tu as un ETF, par exemple, qui pourrait être intéressant pour les gens qui sont intéressés par l'immobilier, tu vois, qui répliquent quelque chose en rapport?
Oui, alors, voilà, c'est un long sujet que j'aborde dans ma formation, notamment en long et en large. Il y a des entreprises qui investissent dans l'immobilier, des entreprises cotées, qui ressemblent à des SCPI, mais cotées, les REITs aux États-Unis. Et donc, il y a des ETF qui suivent ces entreprises. Sauf
OK.
que, donc, ça investit effectivement dans l'immobilier, ça c'est sûr. Le seul truc, c'est que ce sont des actions. Donc, il y a une volatilité, une variabilité qui est la même que celle des actions, pour faire court. C'est quelque chose qui est de niche. Ces entreprises empruntent elles-mêmes, donc il y a un effet de levier qui est intégré à ces entreprises. C'est une des raisons pour lesquelles aussi il y a une forte variabilité. Et il faut faire attention, comme toujours, à l'indice qu'on suit, parce que parfois, dans l'indice, il y a ces entreprises qui ont de l'immobilier, mais parfois c'est du secteur immobilier. Il peut y avoir, je sais pas, des promoteurs immobiliers, par exemple, dans les ETF immobiliers. Voilà. Donc il faut quand même regarder de près ces sujets-là. Il y a d'autres problèmes aussi, c'est que la liquidité n'est pas toujours excellente sur ce type d'actions. Parfois, elles sont assez décorrélées pendant certaines crises, et parfois, elles sont encore très corrélées avec le reste du marché pendant certaines crises. Donc, ça dépend. Donc, il faut regarder. Donc, il y a des possibilités, mais il faut quand même bien comprendre avant de se lancer, je dirais.
OK. Bon, merci beaucoup Edouard, encore une fois. Écoute, on te retrouvera sur tous tes canaux pour s'enrichir de tout ton savoir et ton expérience. Merci encore à toi et je te souhaite une bonne continuation pour tout le reste et à très bientôt.
Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir à toute la communauté et à très bientôt.
Salut, ciao, ciao. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori, l'épisode vous a plu. Si c'est bien le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Notez ce podcast sur Apple Podcasts et Spotify en laissant un commentaire 5 étoiles. Je ne vous le répéterai jamais assez, mais c'est grâce à vous que ce podcast vit aujourd'hui et peut continuer de vivre en vous proposant un contenu toujours plus qualitatif. Merci encore. Je vous retrouve très vite sur un nouvel épisode de Money Tree. En attendant, je vous souhaite la meilleure des réussites dans vos projets et un bon enrichissement. À très bientôt.